Mais Mimi, Mimi, tu l'as mis où?
Ben, de quoi donc?
Le poste. C'est l'heure.
Ben, l'heure de quoi?
L'émission, la JT du local. Sûr qu'elle dépasse tout.
Pour garder des traces de l'exceptionnel, du beau, du bon, de ce qui compte, vous et moi avons dans nos poches ou à la main en permanence cet objet, presque plus un téléphone, mais un accessoire, qui dans ces moments que l'on ne voulait manquer pour rien au monde, nous sert à capturer l'instant. Beaucoup n'ont plus les yeux écarquillés devant un paysage, une œuvre ou un moment de tendresse en famille, parfois trop attentif au cadrage de l'image, à sa netteté sur l'écran. Oh, vous pouvez me dire que c'est l'air du temps et que je n'avance rien de nouveau, mais imaginez l'époque où les traces audiovisuelles de l'exceptionnel n'existaient que rarement. La caméra était lourde et ne s'invitait pas partout, tout le temps. La rareté de ces images les rend précieuses et nous raconte quelque chose sur notre histoire. Elles sont riches de ce que l'on ne connaît pas. Et demain, vous aurez la chance à Laval de découvrir certaines de ces images avec Stéphane Piau, chargé de la valorisation de la mémoire audiovisuelle et vivante au service patrimoine de la ville de Laval. Vous êtes avec moi aujourd'hui. Bonjour Stéphane. Après avoir échangé avec vous, c'est Joël Ballandreau, président de l'agence Tourisme de la Mayenne, qui nous fera un point sur le bilan du tourisme en Mayenne cet été. Et pour terminer cette émission, je vous proposerai quelques autres petites pistes d'endroits à découvrir dans le cadre des Journées du patrimoine dans notre département. En ce qui concerne les actualités locales à Mayenne, l'accueil des urgences régulées pour manque de personnel dans la nuit d'hier à aujourd'hui, la directrice de l'établissement, Catherine Creuset, indique être confrontée à des difficultés de recrutement dans la spécialité d'urgentiste. À ce gré, une équipière polyvalente du McDonald's dénonce la transphobie de la direction. Cynthia, une femme transgenre de 21 ans, fait son coming out début janvier sur son lieu de travail. Tout se passe bien, mais le 24 janvier 2023 commencent des rappels à l'ordre et remarques brutales de la part de son superviseur, notamment l'interdiction à tous les managers d'utiliser son nouveau prénom, alors que la loi l'autorise. Après des humiliations à répétition, notamment devant les clients, des refus à deux reprises de la laisser prendre son poste à cause de son apparence, puis une lettre d'avertissement lui demandant de respecter le règlement intérieur et les règles de sécurité alimentaire et d'hygiène, ainsi que l'image de l'entreprise, elle se rend à la CFDT. Aujourd'hui, Cynthia a saisi le Conseil des prud'hommes d'Angers. Une audience est prévue le 13 novembre et une plainte pour harcèlement moral a été déposée au commissariat d'Angers. Les 39 communes des Coëvrons mettent en lumière la richesse de son patrimoine via 113 panneaux qui racontent l'histoire, le patrimoine et l'écologie, l'économie locale passée. Ils sont répartis dans tous les Coëvrons. Un ouvrage a également été édité, Coëvrons d'hier et d'aujourd'hui. À partir de demain, samedi 16 septembre, une exposition d'une quarantaine de reproductions de ces panneaux sera visible dans le hall du pôle culturel. Au 40 de Laval, l'exposition MU de la photographe Cécile Estève en libre accès. Vous pouvez y découvrir des nus de femmes ayant vécu le cancer du sein. Ces photos sont mises en lien avec leurs témoignages. L'exposition est visible jusqu'au 7 octobre et pour ce dernier jour, vous pouvez réserver votre shooting photo avec la photographe, seule, en duo ou en famille. Un atelier également sera prévu d'autopalpation en partenariat avec la Polyclinique de Laval. Le témoignage de ces femmes sera à écouter le 7 octobre lors de l'émission spéciale Octobre Rose de 16h à 18h, mais je ne manquerai pas de vous le rappeler. Un coup d'œil sur la une de l'hebdomadaire du Haut-Anjou. La résidence du Val-d'Oudon, un préavis de grève illimité, a été déposée à compter du 12 septembre face aux 22 suppressions de postes annoncées. Le syndicat Force Ouvrière réagit. Des assemblées générales vont se tenir régulièrement afin que les agents décident des suites à donner au mouvement. Un combat qui continue. Odette Gureau, agricultrice à Bissarthe, est décédée après avoir contracté 3 cancers. Elle s'était battue pour faire reconnaître sa maladie professionnelle en vain. Son mari et un collectif continuent son combat. Nous allons passer donc maintenant à l'interview avec Stéphane Piau.
Bonjour.
Bonjour Stéphane, merci d'être avec nous aujourd'hui.
Rebonjour.
Vous le savez, donc ce week-end sont organisées les journées du patrimoine qui célèbrent cette année le patrimoine vivant et le patrimoine du sport. Vous, Stéphane Piau, vous êtes chargé de la valorisation de la mémoire audiovisuelle et vivante au service patrimoine de la ville de Laval et réalisateur depuis 37 ans.
C'est ça, c'est cela même, ouais, tout à fait. Je dépendais auparavant, depuis 35 ans, du service communication de la ville de Laval. Alors, on pouvait me voir sur les événements dans les rues de Laval et au-delà sur l'agglo pour réaliser notamment de nombreux tournages événementiels pour après donc produire des films institutionnels présentant Laval sous toutes ses facettes. Mais aussi, j'ai réalisé de nombreux documentaires, notamment 12 présentant l'histoire de Laval, Première Guerre, Seconde Guerre, les bateaux lavoirs, le palais de l'industrie, Laval en 1750 et d'autres et des meilleurs. Et maintenant, j'ai donc intégré le service patrimoine depuis un an et demi pour justement développer tous les projets transmission de la mémoire intergénérationnelle et découverte des nouvelles technologies dont on reparlera tout à l'heure.
Donc pour les journées du patrimoine, les studios vidéo de la ville de Laval s'ouvrent au grand public. Vous proposez différentes visites. Des visites qui sont rares en fait au studio de la ville puisque c'est la deuxième fois seulement que vous présentez toute cette richesse d'images d'archives que vous possédez. Ça sera également l'occasion de célébrer le 40e anniversaire de l'épopée européenne du stade lavallois, donc à travers des images d'archives que vous possédez. Vous possédez une grande quantité d'heures d'archives. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur à partir de quelle année quelle année, la première année où ça a été filmé.
C'est ça. On peut être très fier à la ville de Laval, peu de gens le savent. Mais en fait, on a eu la chance d'avoir un grand club des cinéastes amateurs mayennais. D'accord. Dans les années 20, 30, 40, 50, 60. Et donc moi, depuis 40 ans, je me suis efforcé à faire le tour de ces cinéastes amateurs, de bouche à oreille, à bien fonctionner. Et on peut être fier donc au studio vidéo à la ville de Laval de posséder nos premières archives audiovisuelles, je dis bien des films, non pas des photos, des cartes postales, c'est encore mieux. Mais les premiers films, c'est avant 1920. Et donc aujourd'hui, on est bien en 2023, ça fait plus de 100 ans d'histoire, on peut illustrer toute l'histoire, la mémoire de Laval, c'est phénoménal. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a décidé souvent à réaliser des documentaires sur Laval, c'est parce que justement on est riche de ces archives audiovisuelles et puis aussi profiter de revoir l'histoire vivante, donc nos témoins lavallois qui disparaissent au fil du temps et donc il faut en profiter pour les enregistrer pleinement et les mettre à contribution dans nos documentaires pour après les passer à nos différents publics avec qui on travaille et la jeune génération notamment.
On va revenir sur la visite qui aura lieu donc demain. Il y aura donc des images clés qui retracent l'histoire du stade lavallois. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu les anecdotes?
Alors, je vais essayer de vous immerger pleinement comme si on était demain matin quand on va arriver au studio vidéo. C'est une idée qui me trottait depuis longtemps. En fait, on fait visiter le studio vidéo au Mayennais lavallois seulement la deuxième fois en 42 ans parce que le studio vidéo a été créé en avril 81. Sinon, on a d'autres projets tout au long de l'année où on travaille avec les différents publics, les écoles, les restos du cœur, les réfugiés, les handicapés qui viennent visiter. Et je me disais, c'est bien le studio. Tout le monde fait « Waouh, on a ça, la ville de Laval, c'est super parce qu'on y découvre les nouvelles technologies, l'histoire du cinéma, l'évolution de la vidéo. » Mais je me disais, il manque quelque chose quand on entre avant dans le studio. Et donc, dans la grande entrée principale, j'ai travaillé depuis un an avec les cinéastes amateurs que je vous disais qui sont encore là et présents. Et puis le club cartophile. Pourquoi ? Parce qu'on va présenter demain, inaugurer pour la première fois des vieux projecteurs d'avance 1900, des projecteurs cinéma, 8 mm, 16, 9,5 et Super 8, et aussi des caméras, des vieilles caméras, qui ont tourné lors de la Première Guerre et la Seconde Guerre mondiale, imaginez des images. Et puis aussi le matériel du studio vidéo, puisqu'on a créé le studio vidéo en avril 81, donc dès 80, on a ressorti tout le vieux matériel dont on a démarré, le matériel de montage, les effets spéciaux, le matériel de son, le matériel de tournage, puisqu'on a nos trois caméras de 80 avant de passer sous l'ère de numérique. On a possédé trois caméras hein, avec l'évolution des formats, U-Matic 3 quarts de pouce, Betacam. Donc avant, c'était du 8, du Super 8 quand on était dans l'histoire du cinéma. Et donc là, dans l'allée, on voit ça avant de visiter le studio et c'est vraiment, ça a un rendu super. C'est très surprenant. Et puis sur les murs, On a travaillé avec le club Cartophile. Comme à chaque fois, je propose de nos nombreux trésors audiovisuels de les visionner à la fin de la visite pour les immerger pleinement, on a donc affiché des grands posters qui illustrent l'histoire de Laval d'avant 1900, 1920, 30, le tramway, le palais de l'industrie, les bateaux lavoirs. Donc, je vous incite à venir demain parce qu'on vous réserve plein de belles surprises.
Puis ça permet de redécouvrir la ville de Laval parce que beaucoup de gens, je pense, n'imaginent pas un tramway dans la ville de Laval. On la redécouvre via des images. La ville s'est transformée dans le temps.
C'est ça. C'est deux choses à la fois qui me font plaisir. C'est de faire redécouvrir aux personnes qui l'ont connue ces histoires-là. Un peu ressusciter leur histoire, comme je le dis souvent, parce qu'ils reconnaissent des gens, des proches, de la famille, des voisins. Ou alors ils se remémorent tous leurs souvenirs. Mais à la fois aussi pour les jeunes générations, c'est découvrir complètement qu'il y a un tramway, qu'il y avait un palais de l'industrie, que les bateaux lavoirs ont existé à Laval. Et donc ça, c'est ce qui me plaît dans mon métier de réalisateur depuis 40 ans. C'est d'un peu transmettre l'histoire et puis ressusciter pour les gens qui sont encore là, les gens âgés de 90, 100 ans, hein, le troisième âge, comme on le dit, bah de leur remémorer tous ces souvenirs. Et donc ça, c'est génial. Et j'en reviens pour tout à l'heure, on l'a un petit peu amorcé. Vous me disiez, ouais, l'histoire de Laval, dès 1920, oui, on possède 1800 cassettes de 30 minutes, imaginez, qui sont toutes numérisées depuis 4-5 ans. Ça, c'était bien parce qu'on se vantait d'avoir de vrais trésors audiovisuels, 1800 cassettes. Mais à un moment donné, on aura peut-être perdu toute cette richesse. Et à tout jamais, c'est mémorisé sur des disques d'archivage. Et donc, ça fait plus de 1000 heures d'archives.
Oui, parce qu'une pellicule, c'est un outil fragile. C'est-à-dire c'est que bon, bah, avoir des pellicules, les stocker... Mais en fin de compte, l'image peut se perdre, s'effacer, c'est un matériau qui s'altère.
Complètement. On ne connaît pas la durée. Ce sont des bandes hein, argentiques et donc à un moment, elles auraient pu se casser, se froisser. On a eu la chance quand même au studio vidéo qui a été créé à la bibliothèque depuis le début, à l'avril 81. Alors on me dit souvent, pourquoi la bibliothèque ? Alors je dépendais pourtant du service communication. Hein. Depuis 80, ça a toujours été rattaché au service communication. Le nerf de la guerre déjà dans les années 80, c'était trouver un bel emplacement. Avec un studio vidéo, il faut de la place. C'est aussi un studio son d'enregistrement, on l'oublie. C'est là où on enregistre tous les voix des maires successifs sont venus au studio enregistrer leur voix pour des sujets bien précis ou pour des films. Mais aussi, quand on a enregistré les témoignages de Lavalloise et de Lavallois pour nous raconter leur histoire dans les documentaires. Donc, c'est aussi un studio son. Donc, on avait besoin de s'isoler, de ne pas entendre les bruits de téléphone, les bruits des collègues de la bibliothèque qui chuchotent et tout ça. On est bien, c'est dans les sous-sols de la bibliothèque et il y a vraiment un bel emplacement. C'est un joyau, comme j'aime le dire.
Un joyau qui n'a pas été encore révélé au public lavallois, tout à fait. Vous avez reçu par contre des scolaires déjà, donc qui
c'est
ont
ça.
Découvert, qui
ce
sont
que
captivés,
je, fais,
je crois.
Ce que l'on fait demain, et ce que l'on a fait, donc c'est seulement la deuxième fois, je le fais déjà depuis des années. Mais là, ça prend des proportions depuis que je suis au service patrimoine, c'est génial. Moi, c'est ce que je voulais. On développe nos projets de transmission de la mémoire, c'est quoi ? C'est aller passer dans les structures, dans les écoles primaires, collèges, lycées de Laval, même de l'Aglo. Maintenant, ça vient même de la Mayenne, dans les écoles d'Evron, de Château-Gontier ou de Cran qui viennent. On va passer dans les structures un documentaire. L'enseignant ou le responsable de la structure choisit un documentaire, une thématique. On va prendre Seconde Guerre. On passe et puis cerise sur le gâteau, on vient avec des témoins de Lavallois qui viennent échanger avec le public. Et moi, en tant que réalisateur, parce qu'on a beaucoup de questions, comment réaliser un film, comment on va chercher autant d'archives, comment on récupère autant de témoins et tout ça. Et puis secondo, ça c'est quelque chose qu'on ne fait pas depuis très longtemps, depuis 4-5 ans, ça m'est beaucoup demandé. En même temps, on les fait venir au studio vidéo, découvrir les nouvelles technologies et puis découvrir aussi nos archives et puis apprendre des choses sur l'histoire du cinéma, l'évolution de la vidéo. Et ça, c'est des choses maintenant que l'on mène en parallèle. Il y a l'aspect transmission de la mémoire à travers nos documentaires, la rencontre de témoins, mais maintenant, ça nous est tout le temps demandé systématiquement de venir visiter le studio, soit avant, soit après nos rencontres.
Ça permet de découvrir, effectivement, vous parliez de caméra, de projecteur. Tout le monde n'a pas pu avoir entre les mains ou sous ses yeux, tout du moins, des outils comme ça. On est très loin du téléphone ou des petites caméras d'aujourd'hui. Donc passionnant. En ce qui concerne, du coup, la visite de demain, vous l'aviez dit, il y aura également donc, des invités, donc des anciens joueurs du Stade Lavallois, on peut le dire, des surprises. Il reste donc toutes les plages horaires ne sont pas disponibles. Est-ce que vous pouvez nous rappeler
Ce qui est génial, c'est qu'on est victime de notre succès.
Exactement.
Pour vous dire, à ce jour-là, il est midi passé, on est à près de 200 réservations. Donc on est presque overbooké, mais il reste encore des places de disponibles. Il en reste encore une petite dizaine sur le créneau de 15 à 16. 5 à 6 places de 11h à midi et quelques places encore de 9h à 10h et de 16 à 17h. Mais je vous invite à faire très très vite pour vous inscrire parce que les inscriptions, on les termine à la fin de l'après-midi. Et vous pouvez m'appeler spécialement, spécifiquement.
Je vous fais cette faveur. Disponible.
Voilà.
Vraiment
sur mon
vous.
Portable professionnel au 06 18 31 12 32 avant 17h30 ce soir. Je peux encore vous inscrire sur les plannings. On vous réserve plein de belles surprises. Il est temps de le dire maintenant. Comme la thématique, ça sera le Stade Lavallois. Vous pourrez voir des images d'archives inédites, des matchs de Kiev, d'Austria, de Vienne, mais encore mieux, cerise sur le gâteau, des images du club quand il était dans le monde amateur dans les années 50-60. Et à cette occasion, ils nous font le plaisir d'être là. Les anciens joueurs du Stade Lavallois, Jean-Marc Miton, Eric Stefanini, et mieux encore, des joueurs de les années 50, Alain Desgages, Maurice Gomer. Ça, c'est pour les puristes, ils comprendront de qui je veux parler. Et puis, pour terminer, là c'est génial, on aura les enfants de Michel Lemillinaire, entraîneur emblématique du club du Stade Lavallois. Voilà.
Je pense que ça sera un moment émouvant aussi pour tous ces invités, tous ces témoins en fait.
Tout à fait.
Qui vont revoir aussi ces images.
C'est fait pour ça.
Du moment du partage et puis et de la transmission, comme on le disait tout à l'heure.
C'est le plaisir, justement, en rebondissant sur la transmission, c'est le plaisir que je prends à partager tout ça, la transmission de la mémoire depuis 40 ans, et j'espère qu'on la transmettra encore très longtemps, même après mon absence, quand je partirai sous les lois de la retraite.
Merci Stéphane Piau, c'était un plaisir pour nous de vous avoir avec nous aujourd'hui. Maintenant, je vous propose, chers auditeurs, une petite pause musicale avec un jeune artiste belge, Satchel Hart, qui nous propose un morceau, Elina.
Merci Margot, à bientôt.
À bientôt.
I'm
C'était Satchel Heart sur les ondes de l'autre radio 107.9 à Château-Gontier et 101.7 à Laval. Si vous nous rejoignez à l'instant dans la JT du local, nous allons maintenant faire un bilan du tourisme en Mayenne cet été avec Joël Ballandreau, président de l'agence départementale du tourisme en Mayenne.
Là, le bilan, il est plutôt bon. On a, il faut se rendre compte, en Mayenne, c'est des chiffres qui sont très importants par rapport au nombre d'habitants, on a plus +1 200 000 nuitées chaque année en Mayenne. Donc on compte sur le département combien de gens viennent dormir une nuit chez nous. Donc c'est quand même c'est quelque chose de très important et qui représente du coup beaucoup d'économies, beaucoup de, voilà, de valeur ajoutée pour notre département, qui n'est pourtant pas connu pour être un département extrêmement touristique, mais il l'est. Hein. Il y a sur l'année 4 fois plus de touristes, de gens qui viennent être hébergés là, que d'habitants. Alors, ce qui fonctionne très bien en Mayenne, c'est les gîtes. Depuis quelques années, on voit bien en post-Covid que les gens sont plus attirés par la campagne et par des destinations, on va dire, un peu cosy, un peu, voilà, où on est entre soi, on est en famille, on est en tribu. Donc, forcément, les gîtes mayennais plaisent. Hein, c'est, voilà, on est là, on est bien et on se réassure. Hein. On a aussi il y a des grands événements toute l'année. Alors ça, les festivals sont maintenant de plus en plus nombreux avec un point d'orgue sur la fin aussi. Hein, donc on parle de l'événement de Château-Gontier du VMB Fest. Mais les autres festivals aussi drainent régulièrement chaque année beaucoup de nuitées. Les nuitées sont aussi celles de vos cousins, de vos oncles, de vos tantes et de vos amis que vous invitez à ces occasions-là. Donc c'est assez important qu'il y ait de l'animation sur tout le territoire. Et on profite aussi du fait que par rapport aux départements de France, on fait partie des 45 départements qui progressent par rapport à l'année dernière, qui était déjà une bonne année. Hein. Post-Covid, les destinations un peu campagne ont bien fonctionné. Elles sont modernisées, elles accueillent mieux et du coup elles ont fonctionné. La canicule ailleurs a fait reculer certains départements sur des questions de soutenabilité des vacances. Voilà, donc là, le changement climatique ou les problématiques qu'on peut avoir de canicule dans certains départements sont aussi pour les départements du Grand Ouest un avantage compétitif, hein, puisqu'on parle un peu de ça. Et donc, on a des destinations qui sont de plus en plus attirantes, même si cette année, on va dire que le Grand Ouest a eu un peu trop d'eau au mois de juillet. Pour autant, au total, la progression, elle est là et elle est satisfaisante pour nos restaurateurs, nos hôteliers et nos hôtelleries de plein air, donc nos campings. Les cyanobactéries ont effectivement impacté relativement lourdement certaines activités. D'une façon normative, une fois que les cyanobactéries ont été détectées au-delà d'un certain seuil, le préfet nous interdit des activités. Se baigner de façon pleine et entière ne devient plus possible. On a des fois des exercices de navigation plus ou moins encadrés qui sont autorisés, d'autres qui ne le sont plus. Ça a été un vrai souci. Donc il y a eu des pertes d'activité au milieu de l'été qui ont eu lieu. Alors que pour autant, les sites qui sont là et se posent les questions dans ce sens-là et on les aide à réfléchir à cela, ont vocation à accueillir des gens quoi qu'il arrive, quel que soit le niveau de qualité de l'eau, parce que ce sont des points de fraîcheur que l'on recherche tous pendant l'été et on peut proposer en même temps d'autres activités. Il reste des activités possibles sur l'eau du moment que les gens n'y tombent pas trop, mais c'est toujours très rafraîchissant. Et il reste des activités à faire au bord de l'eau, indépendamment du fait que sur le fond et sur le long terme, on peut se poser des questions sur comment on fait en sorte que la qualité de l'eau s'améliore. Donc on va tous y réfléchir, mais cette question-là, elle est quand même très complexe et elle nous appartient assez peu aujourd'hui. Oui, puis on a un autre point fort de la destination mayenne historique et puis qui se développe beaucoup, en particulier autour de la Vélo-Francette, mais pas que. Je le rappelle, l'itinéraire de la Vélo-Francette, c'est de longer la Mayenne du nord au sud, du sud au nord. On peut aller de Ouistreham jusqu'à La Rochelle sur 600 km de voies cyclables, avec un parcours mayennais qui est extrêmement sécurisé, extrêmement sympathique, puisque la rivière est naturelle, relativement sauvage, donc belle à fréquenter. Et cette année, alors c'est des croissances à deux chiffres quasiment depuis 5-6 ans, hein, la Vélo-Francette. Cette année, il y a eu un gros impact négatif en juillet lié au temps, parce que le vélo est par nature météo-dépendant, mais rattrapé par de l'avant-saison et des ponts de mai qui ont été cette année particulièrement généreux avec nos touristes et ou excursionnistes, et donc une fréquentation importante à ce moment-là. La Mayenne est une destination vélo et restera une destination vélo, et ça continue à se développer. À ce titre, on développe aussi beaucoup, là, avec les rivières de l'Ouest, un ensemble de communication et puis demain d'équipement autour et sur la rivière, la Mayenne, pour la rendre encore plus accueillante, attractive, et puis y proposer des services. L'enjeu, c'est de proposer des services à nos excursionnistes et touristes. On veut augmenter les nuitées, on y arrive, hein. Petitement et petit à petit, on augmente au fur et à mesure le durée de séjour de nos touristes. C'est ça qui va faire que nos acteurs touristiques pourront vivre du tourisme.
Joël Ballandreau, président de l'agence tourisme départementale. Nous l'avons rencontré à Mayenne Tourisme dans ses bureaux. Désormais, nous allons pouvoir écouter une autre musique du Chaînon Manquant programmée aujourd'hui à 17h. 40. Donc je vous laisse écouter Odeya à l'IFIB.
Thank you.
Nous venons d'écouter Ali Fib du groupe Odeya. Donc le groupe, je vous le rappelle, est programmé aujourd'hui au 40 à 17h dans le cadre du Chaînon Manquant. Je vous le rappelle, à partir de demain, donc les journées du patrimoine commencent demain, c'est tout le week-end, sur les thématiques du patrimoine vivant et du patrimoine du sport. Bon, c'est l'occasion pour moi de vous faire deux petites recommandations, mais je vous invite évidemment à regarder l'ensemble des propositions sur notre territoire. Il y a une grande richesse vraiment en Mayenne sur notre territoire par rapport à ça. Donc à Château-Gontier, découvrez dans le faubourg le joyau architectural de la ville de Château-Gontier-sur-Mayenne. Il s'agit de l'ancien couvent des Ursulines fondé au XVIIe siècle, qui est aujourd'hui devenu en fait le carré. C'est un lieu privilégié pour la diffusion et la création artistique. Je vous invite à venir découvrir le cloître, l'église et le théâtre. Donc rendez-vous au 4 bis rue Auro, au pôle culturel des Ursulines à Château-Gontier. Il y a également à Sainte-Suzanne une riche programmation puisqu'il y a la présentation des peintures primées des petites cités de caractère de la Mayenne au rez-de-chaussée de la Bergerie. L'association départementale des petites cités de caractère de la Mayenne organise donc comme chaque année un concours des peintres dans la rue, dans chacune des petites cités de caractère du département et l'exposition réunit donc l'ensemble des œuvres primées en 2023. Vous avez également la présentation des photographies du prix Roland Gaillard 2023 à l'étage de la Bergerie en souvenir de Roland Gaillard, premier adjoint au maire de Sainte-Suzanne et photographe passionné décédé en 2016. Un concours photo est également organisé comme chaque année par les associations Les Amis de Sainte-Suzanne et Médiéville 53. Je vous rappelle également, il ne faut pas que j'oublie, l'inauguration de la saison culturelle du théâtre L'Entracte à Sablé-sur-Sarthe ce week-end. Nous avions reçu Roland Bouchon ce lundi, qui nous présentait la programmation de cette inauguration. Et comme toutes les émissions, elle est évidemment disponible en podcast sur notre site internet l'autreradio.fr. La JT du local, c'est fini pour aujourd'hui, mais dès 19h, retrouvez Dance Hall Social Club, suivi de Tempus Fugit avec Fred et Plom. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter un bon week-end et on se retrouve lundi pour une nouvelle émission de la JT du local.
Bon ben, Mimi, on dirait que c'est fini.